chapitre 43. août 1998, 18h. Une folie, pensait Marc. Courir en plein mois d'août. C'était la fin d'après-midi, il faisait encore près de 30 degrés. Une canicule normande, exceptionnelle. Lily n'en démordait pas. Elle lassait ses baskets, accroupie sur le pas de la porte de la rue Pochol, comme si des ailes la démangeaient. Marc soupira. À contre-cœur, il envoya valser ses espadrilles et alla chercher ses chaussures de sport. La voix joyeuse de Lily carillonna.
« En route, fainéant !»
Elle avait noué ses cheveux blonds en queue de cheval, avec un petit chouchou bleu ciel. Marc adorait quand Lily avait les cheveux tirés en arrière. Cela agrandissait son visage, son front. Cela lui donnait une grâce presque princière. Lily avait achevé ses préparatifs. Elle sautillait devant la porte, impatiente.
« Dépêche-toi !»«
Oui, c'est bon !» Depuis que Lily avait eu 18 en sport au bac, option cross, elle avait pris goût au jogging. Elle avait couru tout le printemps, 5 heures d'entraînement hebdo et abdos, avec Marc pour coach. Celui-ci s'énervait, ne trouvait pas sa basket gauche.
« Si tu n'as pas envie de venir... »«
Si, si !» Lily attrapa une bouteille d'eau minérale et rejeta sa tête en arrière pour boire au goulot. Un mince filet d'eau coula sur ses lèvres, son menton, son cou. Marc détourna le regard, troublé, une nouvelle fois.
« Derrière les seaux, ta basket, je veux dire. »«
Merci. » Marc lassa à son tour sa chaussure, maladroitement. Lily avait enfilé une combinaison de sport Sergio Tacchini, mauve et blanc. Le genre combinaison de championne olympique de triathlon. Une fortune pour quelques bouts de tissu élastique. Un short moulant comme une seconde peau, un haut qui aplatissait trop les seins de Lily, mais qui dévoilait par contre intégralement son ventre plat, la chute de ses reins, le grain de sa peau à peine bronzée.
« Bon, on y va ?»
Marc bougea malgré lui. Un mauvais pressentiment ? La chaleur lourde de ce 16 août, l'absence de vent, le ton de Lily, enjoué, surjoué. Les premières foulées sont toujours les plus dures. Ils traversèrent le Paulé, passèrent le pont transbordeur, longèrent la digue de béton sur le front de mer, puis attaquèrent la montée, sèche jusqu'au château musée. Lily courait toujours devant. Marc calait sa foulée sur la sienne. Ils passèrent devant le golf, puis le lycée Angot et son architecture futuriste au pied des falaises. Lily, malicieuse, agita la main en direction du lycée, en signe d'au revoir. Ils suivaient maintenant un bon kilomètre de plat jusqu'à Pourville. La foulée pouvait s'allonger. Soudain, au détour d'un tournant, le panorama explosa. La valeuse de Pourville, superbe sous le soleil. Lily accéléra encore dans la descente. Sur la digue, les touristes, aux terrasses, sur la plage, se retournèrent sur son passage, surtout les hommes subjugués par l'apparition fugitive de cette fille blonde et lancée dans sa combinaison moulante, hypnotisés par le mouvement régulier de ses longues jambes nues, comme le mouvement perpétuel du battant de cuivre d'une horloge. Marc adoptait une attitude de bodyguard. Regard de mouche à 360 degrés. Pour un peu, tout en courant, il aurait mis la main sur l'épaule de Lily. Il était habitué au regard concupiscent des hommes sur Lily, mais cela ne l'empêchait pas d'être jaloux. Les 500 mètres de plage de Pourville furent vite avalés. Ils entamaient déjà la montée de Varangeville, la plus abrupte, la plus abritée des vents d'ouest. Le versant où se cachaient les plus belles villas, en raison à la fois de la vue et du climat. Près de 100 mètres de dénivelé. Lily peinait un peu. Marc suivait, sans problème. Il fixait la vallée sauvage de Lassie au loin. Il évitait surtout de poser trop longtemps son regard devant lui, juste devant. Les fesses de Lily s'agitaient à la hauteur de ses yeux, ondulantes, sautantes, vivantes. Troublantes. Lily se rendait-elle compte? Un dernier virage et la côte s'acheva, enfin. Marc accéléra, se hissa à la hauteur de Lily. Ils coururent de front. Lily tourna sa tête vers Marc. Souriante, radieuse, si belle. Une émotion montait en Marc. Pas nouvelle, oh non, mais plus intense, plus puissante que jamais. La route était plate ou presque sur 4 ou 5 kilomètres, jusqu'au cimetière marin de Varangeville, leur but. La Rangeville était la commune la plus boisée de la côte d'Albâtre, et l'ombre fut la bienvenue. Ils doublèrent le manoir d'Angot, le parc floral des Moutiers, courant toujours de front, au mépris des voitures derrière eux qui peinaient à les doubler. À 200 mètres de l'arrivée, Lily fit mine de sprinter. Marc lui laissa 5 mètres d'avance. Il n'aurait pas dû. La sueur coulait dans le dos nu de Lily. Les gouttes glissaient jusque dans le bas de ses reins, peau et perles, comme une source joyeuse dans laquelle Marc n'avait qu'une envie, plonger sa bouche. Se calmer. Surtout se calmer. Marc accéléra, doubla Lily en riant, ralentit juste pour arriver sur la même ligne qu'elle. Lily s'écroula sur la pelouse, épuisée. Marc détourna une nouvelle fois les yeux du corps étendu, offert au soleil. Il marcha, poussa le portail du cimetière marin. Lily le rejoignit quelques secondes plus tard. Il n'était pas seul, loin de là. Une bonne vingtaine de touristes circulaient dans le minuscule cimetière, cherchaient la tombe de Georges Braque, son vitrail dans l'église, posé devant le somptueux panorama. Dieppe, Criel, le Tréport, tout le littoral jusqu'à la falaise morte à Ault en Picardie. Combien de couples d'amoureux rêvaient de se marier ici, dans cette adorable église de grès suspendue dans un écrin de verdure, entre ciel et mer. Marc lui-même en rêvait-il ? Il chassa ses pensées stupides.
« On y retourne ?»
Il avait appris que la falaise reculait plus encore ici qu'ailleurs. Tout était pourri en dessous. La craie était gorgée d'eau, friable. Un jour ou l'autre, tout basculerait à la mer, l'église, les tombes, le calvaire de grès. Tout, à l'eau, puis balayé en 2 jours par la marée. Lily avait bu une gorgée à même le robinet à l'entrée du cimetière et était déjà repartie. Marc suivit, docile. Le flux continu de voitures de touristes défilait en face. Le bord de la route étroite étant délimité par un talus planté, méticuleusement entretenu, il devenait impossible de courir de front cette fois. Marc devait emboîter le pas de Lily, se résoudre à contempler devant lui ce dos trempé de sueur, ses fesses galbées, cette nuque de velours piquetée de duvet blond. Il ne fallait pas, pourtant. Pourquoi ? Pourquoi ? Hurlait une voix dans son crâne. Ne plus rien regarder, se concentrer uniquement sur son rythme cardiaque, ses foulées, n'être plus qu'une mécanique sans émotion. Il redescendait déjà sur Pourville. Les manoirs de la Belle Époque se succédaient, rivalisant de fantaisies baroques. Brusquement, Lily tourna sur la gauche en direction de la gorge du Petit Ailly, une petite plage au bout d'une valeuse presque secrète, connue surtout des habitués. Sans doute nombreux, tout de même en ce 16 août. Marc se hissa encore à la hauteur de Lily. « On va où ?» Le regard de Lily pétilla.
« Caprice, qui même me suivent !»
Elle tourna encore, à droite, plein bois. Il n'y avait plus de chemin désormais, juste une petite forêt de saules. 200 mètres à peine plus loin, ils sortirent du bois. Ils doublèrent une petite mare sur leur droite. Ils avaient dû pénétrer dans une ferme. Lily continua dans le champ à découvert, à grande foulée. Ils descendaient maintenant vers la mer en suivant une pente assez raide. Lily poursuivait sa course. Au-dessus d'eux, dans le pré, des vaches les fixaient, mi-étonnées, mi-apeurées. Aucun fermier, par contre. Lily longeait une clôture électrifiée, visiblement elle connaissait. Marc fit un effort de concentration. Les topo-guides du sentier littoral GR21, qu'il avait si souvent arpenté, défilèrent dans sa tête. Ils avaient obliqué au nord de la gorge du Petit Ailly. De mémoire, ils avaient donc dû traverser la ferme du Pain Brûlé, puis celle de Mordal. Marc n'avait désormais plus de doute sur leur destination. Le port de Mordal, dont il ne connaissait l'existence que par les cartes. Il s'agissait d'une de ces petites criques inaccessibles aux touristes, cachées des autres accès à la mer. Une plage privée seulement réservée aux paysans propriétaires des lieux, qui, sans doute, n'y trempaient jamais ses bottes. Sur les 20 derniers mètres avant d'accéder à la mer, la valeuse s'était effondrée. L'argile affleurée et coulait en langue ocre vers la mer. Il devait franchir un trou de 10 mètres. pas très difficile à escalader, et qui présentait l'avantage de rendre la plage totalement invisible depuis le champ. Lily glissa sur l'argile, ses longues jambes et sa peau Sergio Tacchini se teignirent de boue rouge. Elle se tint debout sur les galets, fière, victorieuse. Marc avait suivi sans difficulté. La mer commençait légèrement à descendre, dégageant 3 bons mètres de sable derrière les galets. Lily fit glisser le chouchou bleu dans ses cheveux. Ils tombèrent en cascade d'or. Marc frissonna.
« Un coup de tête !»
fit Lily avec une moue charmante, comme pour se faire pardonner.
« On en pique une ?»
Marc ne répondit pas, dépassé, inquiet. Toujours ce mauvais pressentiment.
« Allez, je suis trempée de sueur. Pour une fois qu'il fait beau, c'est la plus belle journée de l'été. »
Lily avait raison, d'un point de vue strictement météorologique du moins. L'eau calme, la chaleur, le sable, le silence, leur intimité. Comment résister ? Lily, de toute façon, n'attendit pas la réponse de Marc. Les 2 baskets valsèrent dans les galets. La jeune fille plongea dans l'eau. Son costume de triathlète était aussi adapté pour la course que pour la natation. Marc portait un t-shirt ample aux couleurs du Stade toulousain et un long caleçon de toile. Le t-shirt rejoignit les baskets sur les galets. Le caleçon serait trempé. Tant pis. Ils nagèrent près d'une heure, sagement. Marc commençait à reprendre ses esprits. Le corps de Lily se perdait dans l'eau grise de la Manche. Ils alternaient brasses et crawls, côte à côte, complices, heureux. Lily avait raison, comme toujours. Elle avait cédé à un caprice délicieux. Qu'est-ce qu'il s'était imaginé ? Un piège ? C'était son esprit pervers qui l'avait fantasmé. Une gerbe d'eau inonda ses pensées. Lily éclata de rire et éclaboussa Marc une seconde fois. Il répondit. Lily protesta pour la forme, laissa Marc repartir, puis, d'un souple mouvement de rein, grimpa sur son dos et lui enfonça la tête sous l'eau. Marc ne résista pas, même si Lily ne faisait pas le poids. Marc reprit sa respiration en recrachant de l'eau salée. Lily avait pris 2 mètres d'avance, riant aux éclats.
« Non !»
Marc rattrapa d'abord Lily par un pied. Elle protesta sans conviction.
« C'est pas du jeu !»
Il la tira vers lui. Il avait tant joué ainsi avec Lily lorsqu'ils étaient enfants, dans la même eau savonneuse d'une baignoire minuscule. La main ferme du garçon saisit la taille de Lily, légère comme une plume. Le latex tendu moulant les fesses de Lily se colla au torse de Marc.
« Et tu triches !»
Lily riait toujours. Marc remonta la main, attrapa un bras, une épaule, poussa doucement juste pour que Lily coule quelques centimètres sans lui faire mal. Marc se servit de son poids pour faire appui. Il sortait de l'eau pendant que Lily s'y enfonçait. La poitrine de Lily se pressa sur le ventre de Marc, descendit encore. Les épaules, puis le visage de la jeune fille, les yeux clos par crainte du sel, frôlèrent son torse. 1 mètre supplémentaire sous l'eau. Le visage de Lily se colla au tissu trempé du caleçon de Marc. Sa bouche toucha le sexe du garçon, par accident, presque. Marc bandait, terriblement. Comment pouvait-il en être autrement ? Au loin, sur la mer d'huile, un ferry quittait le port de Dieppe, direction New Haven. Quelques triangles blancs s'agitaient dans son sillage, des mouettes sans doute, ou des petits voiliers. Il était difficile de les distinguer à cette distance. Lily et Marc ne disaient rien. Ils nagèrent doucement vers la plage. Le sable était presque sec. Lily s'allongea sur le ventre.
« Je me sèche un peu avant de repartir. »
Les seuls mots qu'elle ait prononcés d'une voix gênée. Une nouvelle voix, comme si elle avait mué. Une voix d'adulte. Marc resta assis recroquevillé, les bras enroulés autour de ses genoux pliés, fixant l'horizon. Combien de temps cela dura-t-il ? Quelques minutes, des heures. Le ferry avait disparu depuis longtemps à l'horizon, vers l'Angleterre, et les mouettes, ou les voiliers, étaient rentrés au port. La mer semblait aussi vide qu'un désert. Lily se leva soudain, silencieuse. Marc ne distinguait que son ombre sur le sable. La jeune fille croisa ses bras et, d'un seul geste, fit glisser par-dessus sa tête le haut de sa combinaison. Elle posa avec délicatesse le maillot sur le sable, bien à plat, comme pour le faire sécher. Lorsqu'elle se pencha, Marc n'eut pas besoin de tourner la tête pour voir se détacher sur le sable le profil de deux seins, petits et fermes, en ombre chinoise, tels ceux d'une geisha. Comme si cela ne suffisait pas, Lily descendit les mains le long de sa taille, l'ombre ondulait, presque comme si elle dansait. Le tissu glissa d'abord lentement, millimètre par millimètre. Sa seconde peau se détachait. Oui, la jeune fille muait. Le tissu tomba dans le sable, comme une peau morte, flasque, inutile. Marc contemplait l'ombre noire, immobile, pigmentée de millions de grains clairs. L'ombre était la même, strictement semblable que les instants précédents. Même taille, même jambe, même cuisse. La silhouette était identique, avec ou sans seconde peau. Et pourtant... Lily retourna s'allonger, toujours sur le ventre. Marc attendit des heures, des minutes. Personne ne vint à son secours, ni voile à l'horizon, ni touriste égaré, ni fermier courroucé. Lily sentit la main chaude de Marc se poser sur le bas de son dos. Le sable collé rendait sa paume un peu râpeuse. Elle frissonna et se retourna. À qui d'autre pouvait-elle offrir ses 18 ans ? Marc ouvrit les yeux. Il était couvert de sueur. Par la fenêtre du train, une série interminable de pylônes à haute tension lui fonçait sur la gueule. Il esquissa un mouvement de recul malgré lui. Était-il un monstre ? Marc sentait les 20 grammes de l'enveloppe bleue du laboratoire peser dans sa veste, le test ADN. Était-il des monstres ? L'ouvrir, savoir, avoir la preuve. La porte du wagon s'ouvrit et Malvina de Carville entra.